Alors voilà, le message de ce matin, on va parler en fait du feu. Et vous verrez, on va passer un peu d'un passage biblique à un autre. À un moment donné, on va s'arrêter peut-être plus longtemps sur un passage, alors on ouvrira nos Bibles. D'autres fois, je vais passer un peu plus rapidement, alors je vais simplement faire la lecture du verset directement dans le texte que j'ai écrit ici. Mais le message central, pour pas que je vous perde, j'essaierai pas de vous perdre au travers de ce message, pensez simplement que le message central va parler du feu. Hein? De quel feu est-ce qu'on va parler? Est-ce qu'on va parler du feu du 1er août? Je pense que vous imaginez que non, il n'y a personne qui est venu avec son long pion ce matin, ou sa petite fusée, ou son Vésuve, ou que sais-je. On ne va pas parler de feu de forêt non plus, ou on ne va pas parler d'un feu dans la gorge quand on a mangé quelque chose de trop pimenté. On va parler d'un feu qui est lié en fait à la présence de Dieu lui-même. Et un premier texte qui nous parle d'un tel feu, qu'on va lire ensemble, je ne pense pas le premier texte dans la Bible, mais c'est le premier texte qu'on va lire ce matin, se trouve dans le livre d'Exode, au chapitre 3. Exode, chapitre 3, on va voir qu'il y a un feu ici qui est présent dans ce passage. Je vais lire à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. » Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, que tu auras fait sortir d'Égypte le peuple pour servir Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, voici, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils se demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Alors dans ce texte, on le sait, hein, ça faisait 40 ans que Moïse avait fui le pays d'Égypte et il s'occupait du troupeau de son beau-père. Et alors qu'il se trouve sur la montagne de Dieu à Horeb, c'est un autre nom pour le mont Sinaï, l'attention de Moïse se fixe sur un buisson sans feu. Alors on est dans une région plutôt désertique. Peut-être que pendant la saison chaude, pendant l'été, peut-être qu'il arrive que tout à coup, tellement il fait chaud, ça, je pense que ça peut arriver dans un désert, tout d'un coup un buisson qui s'enflamme à cause du feu. Mais là, c'est un buisson quand même un peu particulier, parce que ça intrigue Moïse, parce que ce buisson brûlait, mais ne se consumait point. Il y a un dicton qui dit « il n'y a pas de fumée sans feu hein ». Alors là, dans ce cas précis, il y avait un feu, mais il n'y avait pas de fumée. Quand même, en effet, étonnant. Il y a de quoi de avoir le regard tout à coup détourné, hein, et de se dire, mais c'est quoi, ça brûle. Ça brûle, il y a un feu énorme là, mais il n'y a aucune fumée. Le buisson ne se consume pas. Et notre ami Moïse, ça faisait 40 ans qu'il s'occupait du troupeau de son beau-père. Lui qui avait été habitué au faste du palais du Pharaon, il s'était retrouvé du jour au lendemain comme simple berger. 40 ans à vivre dans le même travail, on peut rêver peut-être mieux comme parcours professionnel, comme ascension sociale. Non, pendant 40 ans, Moïse a dû se contenter de cet emploi-là. Et, mais de l'autre côté, durant ces 40 ans, Moïse était à l'école du Seigneur, à l'école de l'humilité. Et quand vous passez 40 ans, c'est quand même un bout d'une existence, hein? 40 ans dans la même activité, pour vous décrocher de cette activité, il faut quand même un événement assez fort. Et c'est ce qu'il a fallu. Il a fallu que Dieu se révèle d'une manière puissante pour que Moïse sorte de cette identité de simple berger et rentre dans son appel pour conduire le peuple d'Israël en dehors d'Égypte. Et Dieu ne s'est pas révélé, entre guillemets, avec le dos de la cuillère. Il n'a pas envoyé un prophète vers Moïse, ou bien il ne lui a pas parlé par l'entremise d'un songe, ou par un ange. Non, c'est Dieu lui-même qui s'est révélé à Moïse, en se cachant au milieu d'un buisson en feu. L'ange de l'Éternel, quand il est parlé, c'est le verset 2 que je reprends là, quand il est parlé de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même, hein, c'est un des noms de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson, dans une flamme de feu. Dieu est apparu devant les yeux de Moïse dans une flamme de feu. Et comment est-ce que Dieu s'est présenté à lui? Parce que quand on se présente à quelqu'un qu'on ne connaît pas, en général, on va au bout d'un moment peut-être donner notre nom. Hein, il y a la discussion qui va s'entamer, puis peut-être au bout d'un moment on va donner notre nom, ou bien dès le départ on va dire « Bonjour, je m'appelle un tel ». Et en fait, Dieu se présente. En premier lieu, on voit qu'au verset 6, il dit « Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Donc Dieu se révèle que, oui, en effet, il est bel et bien le Dieu que ton père a connu. Je suis bel et bien le Dieu que toi tu connais aussi. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et un peu plus loin, au verset 14, il dit « Je suis celui qui suis ». Quel est ton nom, hein? Vu que je dois aller devant tout le peuple, devant Pharaon et conduire ce peuple, devant le peuple, si on me demande, mais quel est le nom de celui qui t'envoie, je suis celui qui suis. C'est très simple. Je suis, t'as qu'à leur dire, celui qui est, t'envoie, celui qui suit. Et dans ce nom-là, il n'y a que Dieu, en fait, qui peut s'appeler d'une telle manière. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui est à l'origine de la vie. Je suis celui qui était avant les temps éternels. Je suis celui qui a ni commencement ni fin de jour. Je suis. Ce n'est pas l'homme qui peut se prévaloir d'un tel titre et encore moins le diable. Je suis celui qui s'appelle « Je suis » celui qui s'appelle « Je suis » t'envoie pour délivrer Israël des mains des Égyptiens. Satan lui ne peut pas avoir ce statut. Il ne peut pas être le « je suis » car il était créé. Et vous savez, Satan, c'est un tentateur. Et on connaît l'histoire dans Genèse 3, verset 5. Là, je prends juste... Oh, on peut y aller ensemble. Genèse 3, verset 5. On reviendra après dans un petit moment à Exode 3. Genèse 3, verset 5. De quelle manière est-ce que Satan a tenté l'homme? Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Hein? Le diable, il a cherché à tenter l'homme en lui faisant croire que si il lui obéit, si il se laisse tenter par lui, et s'il désobéit en fait à l'ordre du Seigneur, l'homme allait devenir comme des dieux. C'est le plus vieux péché du monde, c'est la plus vieille tentation. Hein. C'est l'homme qui veut devenir quelque part aussi son propre dieu. Et puis on verra à la fin du message, on va revenir sur ce sujet. C'est l'homme qui veut chercher vraiment à prendre la place du Seigneur. Et l'Antéchrist lui-même, quand il rentrera aussi dans le temple à Jérusalem, il se proclamera Dieu. Hein. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. Dans les temps de la fin, l'Antéchrist aussi va rentrer dans le temple à Jérusalem et il va se proclamer Dieu. Et il va faire croire à l'humanité que voilà, on est arrivé à un point où l'homme peut devenir Dieu. Il a atteint enfin ce statut, c'est la fin de la révélation, c'est la fin du processus de l'homme. L'homme est enfin arrivé, a enfin pu aboutir à ce statut divin. Hein? Il y a une logique. Dès le départ, le diable a cherché à tenter l'homme de cette manière-là. Si tu manges, tu vas devenir comme des dieux. Et à la fin, il va faire croire à l'homme que enfin l'homme est arrivé à ce statut de divinité. Mais nous savons que le jugement de Dieu est tombé sur l'homme à cause de son péché. Genèse 3, verset 22 nous dit « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. » L'homme avait été créé au départ pour vivre éternellement, mais à cause du péché, à cause du mal qui s'est intégré dans l'homme, Dieu a dit « Stop ! » L'homme ne vivra plus éternellement parce qu'il savait les conséquences. Si l'homme allait vivre éternellement rempli du mal, les conséquences néfastes pour l'humanité. Dieu avait donné un ordre bien précis, et on le trouve dans Genèse 2, verset 16. Il dit à la femme... je suis à Genèse 3. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Hein? Dieu avait averti. Le jour où tu vas manger de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir le jour même. Alors j'ai une petite question à vous poser, vu que Dieu a dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras », il y a quand même un peu quelque chose de paradoxal. Parce que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait par hasard, hein, bon ça c'est une question un peu, s'il y a quelqu'un qui sait, franchement, chapeau. Combien d'années a vécu Adam? 930 ans, voilà, super, bravo, révérence. Oui, 930 ans, hein. Et puis, l'homme qui a vécu le plus longtemps, là il faut que je retrouve mes notes. Oui, presque. Oui, je crois que c'est ça, hein, 969 ans, hein, en effet. Alors, je vais retourner sur mes notes. En effet, hein, 969 69 ans pour Methuselah. C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps. Et c'est de ce nom-là, de cet homme-là, qu'on retrouve notre dicton en français, vieux comme Mathusalem. Hein? Mathusalem, en fait, c'est le nom en français de Methuselah. Hein? Vieux comme Mathusalem, en fait, ça veut dire, mais vieux comme l'homme qui a vécu le plus longtemps. 969 ans. Alors, c'est quand même bizarre, parce que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, crac, boum, fini. Et puis pourtant, Adam a vécu 930 ans, Methuselah 969 ans, et puis on sait qu'après est venu le déluge, et après le déluge, Dieu a fixé 120 ans. Hein? Donc, il y a déjà une grosse diminution après le déluge. Mais quand même, il y a des hommes qui ont vécu au début d'une durée très longue. Pourquoi? Parce qu'un jour, devant Dieu, est comme 1000 ans. Donc Dieu n'a pas menti. Quand il a dit « le jour où tu en mangeras », en effet, personne n'a vécu au-delà d'un jour dans la pensée du Seigneur, au-delà de 1000 ans. La personne qui a vécu le plus longtemps, 969 ans. Donc la logique de Dieu a été suivie. On reviendra d'ailleurs dans cette notion de un jour est égal à 1000 ans. Vous verrez, je vais essayer de pas vous perdre. On garde le fil. C'est toujours par rapport au feu de Dieu, toujours cette pensée aussi que le diable a voulu séduire l'homme. Et vous verrez, à la fin, les choses on va tout relier ensemble. Donc l'homme cherche à faire croire, cherche à faire croire que l'homme va être son propre Dieu, que l'homme doit être le centre de tout, qu'il est fait pour s'adorer lui-même. Et puis dans les derniers temps, comme on a vu, hein, avec l'Antéchrist, il va faire croire qu'enfin l'homme est arrivé à ce stade de divinité. Et il va faire croire qu'il peut porter le titre de « Je suis ». Hein. Et nous savons que ce « Je suis », il n'y a que Dieu, et Dieu lui seul, qui peut porter ce nom. Mais alors pourquoi est-ce que Dieu, et là on revient sur notre texte d'Exode, pourquoi est-ce que Dieu s'est révélé au milieu du feu? C'est quand même assez particulier. Alors, je l'ai dit, il fallait un événement, quelque chose d'assez fort pour que Moïse se détourne de sa vie de berger. Il fallait un événement fort qui allait marquer vraiment le cœur de Moïse pour se dire, ben, c'est, le temps est venu, il faut que je me lève pour servir le Seigneur. Mais si Dieu s'est manifesté au travers du feu, c'est parce que le feu symbolise aussi quelque chose. Deutéronome 4, verset 24, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Le feu symbolise aussi la colère de Dieu, le feu symbolise en fait le jugement, et ce buisson en feu symbolisait le jugement par rapport aux Égyptiens, parce que les Égyptiens allaient passer par le feu du jugement de Dieu, alors que de l'autre côté, la délivrance allait se manifester pour le peuple d'Israël. Donc, le feu symbolise la colère de Dieu, le feu symbolise le jugement du Seigneur, mais de l'autre côté, le feu aussi symbolise la délivrance de l'Éternel. Quand Moïse a vu ce feu, au verset 3, il a dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Je veux me détourner. Hein? » Il y a eu quelque chose de profond là qui s'est passé. Il y a eu un déclic, il y a eu un changement de cap, il y a eu un changement de chemin. Moïse, suite à cette vision, a pu commencer à rentrer dans son appel. Vous vous rappelez, 40 ans à servir comme simple berger. Ben, pour finir, c'est quelque chose qui vous imprègne, ça imprègne votre identité, même si vous avez grandi dans une culture avec un grand palais et puis les honneurs de la famille royale. Ben, au bout de 40 ans, en tant que simple berger, je pense que cette identité de simple berger avait pris le dessus de ce qu'il était avant en Égypte. Donc, il y a quelque chose qui se passe ici à ce moment-là. Moïse dit « Je veux me détourner ». Et en effet, en se détournant, en changeant son chemin, Moïse est rentré dans les choses que le Seigneur avait en réserve pour lui. Et je pense que ça n'a pas dû être évident pour lui.
parce qu'il était là, en tant que simple berger, peut-être qu'au final, il y trouvait sa satisfaction. Et peut-être qu'il avait même laissé de côté la délivrance d'Israël. Peut-être qu'il s'est dit, ben voilà, ce ne sera pas de ma génération, je sais que Dieu est fidèle. Dieu agira à quel moment ? Je ne sais pas, ça ne m'appartient pas. Je sais que Dieu est fidèle, mais peut-être que ce n'est pas pour moi, peut-être que ce n'est pas mon appel. Peut-être que je me suis trompé en pensant que le Seigneur m'appelait pour apporter la délivrance sur son peuple. Donc, cette vision a amené, a été le point de départ pour notre ami Moïse, afin qu'il puisse conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte. Ce feu annonçait le jugement sur l'Égypte et ce feu annonçait aussi la délivrance d'Israël. Est-ce que Dieu l'a fait? Oui, Dieu l'a fait. Dieu l'a accompli. Nous croyons que l'histoire de Moïse et que l'histoire de la délivrance du peuple d'Israël, ce n'est pas juste une belle petite histoire pour les enfants. Nous croyons que Dieu l'a réellement accompli. Amen. Et moi, je crois de la même manière que si Dieu a délivré Israël de l'Égypte, Dieu est aussi aujourd'hui capable de délivrer son Église de l'emprise du diable et de l'emprise de ce monde. Amen. Et moi, je crois que le feu du jugement de Dieu s'approche. Et que le feu du jugement de Dieu, c'est la colère du Seigneur qui va s'abattre sur cette terre. Mais que face au feu, il y a aussi une délivrance pour l'épouse, pour la bien-aimée du Seigneur. 2 Thessaloniciens 1, là je vous invite à ouvrir vos Bibles, les versets 1, le chapitre 1, les versets 3 à 10. 2 Thessaloniciens 1, les versets 3 à 10. On va retrouver le feu aussi dans ce texte. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi. Au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. On voit que Paul s'adresse ici aux Thessaloniciens et on voit que ces gens-là ont enduré des choses vraiment difficiles. Ils ont enduré la persécution, ils ont enduré la souffrance, ils ont enduré les tribulations pour le royaume de Dieu. Et on voit que Dieu n'est pas aveugle. On peut nous aussi, en tant que chrétiens, passer par des choses difficiles, mais Dieu voit tout ceci. La vie de ces Thessaloniciens n'était pas commode. Un peu aussi comme d'ailleurs la vie de Moïse n'était pas commode. Comme simple berger, la vie de Moïse n'était aussi pas commode. Et je reviens quelques instants sur Moïse et après on continuera sur de Thessaloniciens. Il s'occupait, on l'a vu, hein, du troupeau de son beau-père. Et là, je fais une petite parenthèse, un petit gag aussi, une petite histoire par rapport à la difficulté des fois qu'on peut avoir avec la relation de nos beaux-parents. C'est un homme d'un certain âge déjà qui perd malheureusement son épouse. Et puis un peu plus tard, au bonheur, il se remarie avec une des sœurs de sa défunte femme. Quelque temps après, il croise un de ses amis qui le questionne. Alors, tu es nouveau, tu es heureux avec ta nouvelle épouse? Et lui de répondre,
bof, ça va, mais tu sais, à mon âge, je ne voulais pas devoir m'habituer à une nouvelle belle-mère.
Hein, la relation avec les beaux-parents, c'est pas toujours simple.
Et Moïse était simple berger de son beau-père.
Peut-être des fois les relations là, ça ne devait pas être tout facile. Hein? Vous vous rappelez, hein? Il venait du palais d'Égypte et puis vous vous retrouvez simple berger du beau-père.
Et je me disais, bah, si peut-être ces nouvelles ont parcouru au bout de 40 ans, peut-être que ces nouvelles ont retourné jusqu'en Égypte, et puis on peut s'imaginer la discussion dans le palais, quand la nouvelle arrive au palais du pharaon, et quelqu'un de dire, tu connais pas la dernière nouvelle? Et une autre personne de répondre, non, quoi? Moïse travaille depuis bientôt 40 ans comme berger.
Non, comme berger?
Non, mais tu plaisantes?
Mais non, pas du tout. Et en plus, il est dans une région, mais franchement, c'est le désert là-bas.
Dans le désert, bah alors son troupeau doit être magnifique, ces petites brebis là, doivent être toutes tremblantes, toutes chétives.
Non, mais attends, c'est pas son troupeau.
Il est seulement le berger, le simple berger de son beau-père, du troupeau de son beau-père.
Non, c'est pas possible, du troupeau de son beau-père, mais Moïse, quel loser ce gaillard.
La vie de Moïse n'était pas évidente.
Et des fois, nos vies aussi ne sont pas évidentes.
Des fois, on passe par des situations douloureuses. Et là, les gens de l'église de Thessalonique passaient aussi par des temps vraiment difficiles. Ils étaient affligés. Mais Dieu est juste. Verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent.
Dieu est juste. Si des fois ce monde t'afflige, si des fois ce monde, on peut penser au monde de la politique, t'afflige, hein? Si tu vois tellement d'injustice, si tu vois que le pauvre devient de plus en plus pauvre et que le riche devient de plus en plus riche, et que tu le vis toi-même aussi, que tes fins de mois sont de plus en plus difficiles, Dieu est juste. Dieu a le pouvoir un jour, et il le fera, d'affliger ceux qui nous affligent.
Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance.
Au milieu de quoi?
Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus.
Jésus va revenir au milieu d'une flamme de feu.
Hein, je vous ai dit qu'on allait un peu reboucler les choses, renouer la gerbe.
On voit qu'il y a vraiment, c'est un passage quelque part parallèle. Dieu s'est révélé à Moïse au milieu d'une flamme de feu. Et quand Jésus-Christ va revenir sur cette terre, ce sera aussi au milieu d'une flamme de feu.
Ces deux textes qui nous parlent d'événements qui sont parallèles, même s'ils sont à des époques complètement différentes.
Le feu symbolise le jugement de Dieu, mais le feu de l'autre côté aussi symbolise la délivrance de l'Éternel.
Et moi, je crois sincèrement que le Seigneur un jour va enlever son Église.
Il va venir rechercher son Église. S'il va juger la terre, si le feu va s'abattre sur ce monde, de l'autre côté, le Seigneur, au travers de ce feu aussi, va venir chercher son Église.
Une fois, il y a quelques temps en arrière, je vous avais parlé sur les quatre cavaliers de l'Apocalypse, sur l'ouverture des sept premiers sceaux. Et puis j'avais dit, ben, peut-être le sixième sceau, c'est à ce moment-là, peut-être, je ne suis pas catégorique par rapport à ça, mais c'est peut-être à ce moment-là que l'Église sera enlevée auprès du Seigneur. Parce que le septième sceau, en fait, nous ouvre par rapport au temps
du début du règne de l'Antéchrist, parce qu'il a dit une demi-heure de silence dans le ciel. Puis je lui ai dit, mais cette demi-heure, c'est peut-être les 3 ans et demi de règne de paix de l'Antéchrist au début de son règne. Hein, parce qu'il a dit que l'Antéchrist, il règnera avec 10 gouverneurs pendant 1 heure sur cette terre. Il a dit aussi que Babylone, la grande sans jugement, est arrivée en 1 heure. Donc tout ce que cherchent les puissants de ce monde à construire depuis des décennies, même des centaines d'années, en 1 heure, son jugement va arriver. Donc peut-être le 6e sceau, c'est que l'Église est enlevée, mais avant, je vous avais parlé de ces 4 cavaliers de l'Apocalypse qui ressemblaient fortement à une 3e peut-être guerre mondiale, en tout cas des événements très difficiles, et peut-être que l'Église sera encore là, dans ce moment-là, à devoir subir ces moments-là, et peut-être que nous sommes en fait à la porte de ce feu-là. Nous sommes à la porte de ce jugement-là, nous sommes à la porte de ces temps difficiles. Peut-être pas. On verra bien, hein. Je vous avais dit que je vous avais partagé ce texte sur les 7, l'ouverture des 7 premiers sceaux, que si on se trouve face à une 3e guerre mondiale, on le verra bien. Ce n'est pas quelque chose qui pourra nous passer hors de la vue. Mais peut-être que nous sommes très proches. Et si nous allons entrer dans ces temps-là, Dieu veut aussi nous préparer pour que nous puissions être des témoins vivants, que même face à la difficulté, face à l'affliction, face aux souffrances, peut-être face même aux privations, ou même face à la mort, parce que la mort va frapper aussi, et peut-être que l'Église sera encore là, que nous puissions être des témoins vivants de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions encore apporter la parole de l'Évangile, parce que de nombreuses personnes, je crois, viendront encore au Seigneur. Et ce sera peut-être là notre dernière mission. Mais si ces événements arrivent, relevons la tête, parce que notre délivrance vraiment s'approche et à grands pas. Ça ne va pas mettre des dizaines et des dizaines d'années. Si on rentre dans un tel temps, ça va aller très, très rapidement. Préparons-nous, parce que le Seigneur est proche. Parce que Dieu va nous faire, peut-être, on va vivre cette époque-là, le plus beau des voyages. Hein? 1 Thessaloniciens 4:17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est le plus beau des voyages. Et vous savez, quand vous êtes juste avant un départ, hein, vous avez préparé un joli voyage, dans votre cœur, vous êtes tout excité. Vous allez sûrement la nuit d'avant mal dormir, dire est-ce que j'ai bien tout pensé, et puis est-ce que j'ai pris ceci, et puis cela, ah mince, j'ai oublié, il faut que je dise à ma voisine qu'elle s'occupe de mon chat, etc., etc. Il y a une excitation face au voyage. Et nous, en tant que peuple de Dieu, on devrait être aussi excités, parce que cette délivrance, elle s'approche. Ce voyage extraordinaire qui va nous faire rentrer dans la présence de Dieu s'approche. Et malheureusement, des fois dans l'Église, ben, cette excitation, franchement, on ne la trouve plus tellement. Pourtant, chez les premiers chrétiens, elle était là. Maranatha, viens Seigneur, viens. C'est la dernière prière qu'on trouve dans l'Apocalypse de Jean. Maranatha, cette espérance du retour du Seigneur a marqué toutes les générations de l'Église. Et aujourd'hui, moi, je crois que peut-être, j'en sais rien, mais peut-être, les événements vont s'enchaîner. Et nous, en tant que croyants, surtout, on ne devra pas être surpris. On devrait être fermement sur le roc, fermement sur la parole de Dieu, sachant que la délivrance approche, témoignant aux gens qui seront autour de nous pour susciter un réveil, j'espère, auprès de ces gens-là. Hier encore, j'ai pu témoigner à un monsieur aussi, j'ai pu lui parler des choses à venir, parce qu'il voit tellement tout en noir par rapport au futur. C'est quelqu'un d'une 50aine d'années qui a beaucoup réfléchi sur ce monde actuel. Il est français et il voit en noir. Mais comment ne pas voir en noir quand on fait une analyse des événements actuels, quand on fait une analyse de l'économie actuelle et de la politique actuelle, comment ne pas voir en noir? Mais nous, on sait ce qui vient. Hein? Mais malheureusement, avant, il y a encore le règne de l'Antéchrist. Et les gens vont passer vraiment par des temps très difficiles. Mais moi, je crois que l'Église aura été enlevée avant le règne de l'Antéchrist. Donc, profitons de témoigner. Restons debout pour la venue du Seigneur. Et je vais terminer avec un texte. Je termine, puis comme ça, vous verrez, ça fait un peu la conclusion aussi. Ça fait un peu on va nouer un peu le tout de ce message par un texte dans Osée 6, le prophète Osée, qui se trouve après Daniel, Osée 6, les versets 1 à 3.
Osée 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours, et le troisième jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Amen. Chaque soir avant d'aller au lit, est-ce que tu t'es posé la question le lendemain matin, est-ce que le soleil, est-ce que tu ne verras pas poindre au loin? Hein? Non. Tu sais qu'il y a un cycle. Et inévitablement, si tu te couches, le lendemain matin, quand tu te relèveras, bon, ça dépend à quelle heure tu te lèves, ben, le soleil sera là, il sera présent. Amen. Donc, c'est une logique physique. Et Dieu dit, et Dieu, ce qu'il dit, l'accomplit, que sa venue est aussi certaine qu'une logique physique. On n'a pas à douter. Sa venue est certaine. Nous le croyons. Ce monde qui est en perdition, malheureusement, beaucoup de gens n'y croient pas, mais que Dieu nous aide à transmettre ce message, parce que sa venue est certaine et la délivrance de l'Éternel est proche. Il nous est parlé ici, il nous rendra la vie dans deux jours, et le troisième jour, il nous relèvera. Vous vous rappelez, un jour est égal à 1000 ans, deux jours est égal à 2000 ans, ben, ça va, j'ai pas perdu tout le monde encore. 3 jours est égal à 3000 ans. Hein? Il nous rendra la vie dans 2 jours. Que Dieu a parlé à Adam et à Ève, si tu manges de ceci, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si l'homme le plus vieux a fait 969 ans, et si Dieu nous dit ici, si dans 2 jours je vous rendrai la vie, on peut penser, c'est 2 ans, c'est 2000 ans. Et ça fait bientôt 2000 ans que Jésus a commencé son ministère sur la terre. Est-ce que ce temps-là va s'étendre encore pendant des dizaines et des centaines et des milliers d'années? Dieu a dit, dans 2 jours, je vous rendrai la vie. Les temps, je crois, sont proches. Et le troisième, nous vivrons devant lui. C'est quoi le troisième jour? C'est le millénium. Hein? C'est le temps que nous vivrons avec Christ, où nous régnerons sur cette terre, parce que comme nous avons lu dans 2 Thessaloniciens, nous reviendrons avec lui et Christ sera glorifié dans ses saints. En chacun d'entre nous, il sera glorifié. Parce que Jésus ne va pas revenir tout seul sur cette terre. Imaginez-vous toutes les catastrophes qui vont suivre. Armageddon en plus. Il y aura une désolation pas possible sur cette terre. Il ne restera plus beaucoup de chrétiens à ce moment-là. Est-ce que Jésus va arriver là et puis il y aura juste que 3 ou 4 petits chrétiens qui seront restés fidèles, hein? Et puis il va s'embêter sur cette terre. Mais non, il va revenir. Il est dit, Jésus se glorifiera dans ses saints. Et dans ses saints, en chacun d'entre nous, il se glorifiera pour son règne ici sur cette terre. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tes jugements sont véritables. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es celui qui est, tu es celui de toute éternité, Seigneur, et nous ne sommes que de faibles mortels. Mais tu nous as appelés, Seigneur, un jour à pouvoir régner avec toi sur cette terre. Un jour à pouvoir être, que ton nom puisse être glorifié dans nos vies. Oh, béni sois-tu, Seigneur, parce que nous savons que ton appel est véritable. Que ta venue est véritable. Ne doutons pas, Seigneur, et que ta délivrance s'approche. Alors, comme Moïse, que nous voyons peut-être ce feu sur ce monde s'approcher, nous voulons nous détourner, Seigneur, de nos chemins de pacotille, de nos priorités qui ne sont pas en toi, Seigneur, et nous voulons nous consacrer tout à nouveau pour toi et te dire, oui, Jésus, tu es le roi sur nos vies, tu es le maître. Notre existence, nos existences sont pour toi, Seigneur. On veut te servir. On ne veut pas servir l'homme, Seigneur. On ne veut pas servir le diable. On veut servir le Christ ce matin.
avec un cœur fervent, avec une passion pour ton nom Jésus, parce que tu es Dieu, parce que tu as été souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin que en ton nom Jésus, tout genou fléchisse. Et ce matin, nous fléchissons le genou devant toi et nous te disons gloire, oh gloire à toi Seigneur. Viens Seigneur, viens Seigneur. Viens, Seigneur, dans nos vies, enflamme nos cœurs et que nous puissions être trouvés bouillants lors de ton retour. Oui, Père éternel, nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais nous abandonnons entre tes mains et nous attendons ton secours et ton soutien et ta délivrance, parce que le jour de la délivrance s'approche. Mais Seigneur, en attendant ce jour-là, nous voulons être vivants pour toi, ressuscités pour toi. Que ton nom, Seigneur, soit sanctifié dans nos vies et que ton nom, Seigneur, soit proclamé au travers de nos vies. Que dans ce monde de ténèbres, ta lumière, Seigneur, puisse encore briller. Amen.